comment la vie est-elle apparue sur Terre?
On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
Les scientifiques repoussent encore les limites du possible.
Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps de l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses dérivent.
Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils n'ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans.
So, I had an idea.
Le siècle des ampoules.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules. Les missions spatiales sont l'aboutissement de décennies de réflexion et de préparation. Notre invité du jour est expert en dynamique de vol à l'Agence spatiale européenne et travaille depuis plus de 17 ans à la préparation et au suivi de la mission JUICE de l'ESA. Mais comment passe-t-on des objectifs scientifiques à une mission? Quelles en sont les grandes étapes et comment les prépare-t-on? Autant de questions que nous allons tenter de parcourir avec notre invité du jour, Arnaud Boutonnet. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour.
Alors Arnaud Boutonnet, vous êtes expert en dynamique de vol à l'Agence spatiale européenne et vous travaillez depuis 2005, notamment sur la mission JUICE, et vous êtes également support analyse de mission pour la mission L4 de l'ESA. Alors est-ce que vous pouvez, Arnaud Boutonnet, peut-être dans un premier temps revenir sur les premières idées qui ont été retenues à l'origine pour élaborer cette mission? Il y avait un précédent à la base, je pense que c'était la mission Europa Jupiter System Mission en collaboration avec la NASA, mais qui a été abandonnée.
Tout à fait, c'est exact. Quand j'ai commencé à travailler sur cette mission, effectivement, on était en 2005-2006. La mission s'appelait donc EGSM, comme vous venez de le dire. Il y avait deux sondes, une qui se focalisait sur Europe, qui était celle de la NASA, du centre JPL de la NASA, et l'autre qui était qui se focalisait sur Ganymède et qui était dénommée Laplace, JGO Laplace, côté ESA.
Alors Europe et Ganymède qui sont, on peut le rappeler, des satellites naturels de Jupiter, ces fameuses lunes glacées auxquelles nous avons consacré une précédente émission récemment. Alors JUICE, qui est cette mission à destination de Jupiter et de ses lunes, a donc été lancée en avril 2023. Ça a été pour vous l'aboutissement et le début à la fois peut-être, car JUICE est attendu autour de Jupiter qu'aux alentours du mois de juillet 2031, de près de 17 années de calcul.
Tout à fait. C'est effectivement un aboutissement et puis c'est un peu de stress aussi. On espère, normalement, tout doit toujours bien se passer pendant le lancement, mais il y a toujours un petit stress. Effectivement, on a travaillé beaucoup sur la phase interplanétaire et une fois arrivé à Jupiter, sur la phase autour de la planète géante, qui est une phase assez complexe avec 35 assistances gravitationnelles avant d'aller se mettre en orbite autour de Ganymède. Donc ça a nécessité énormément d'amélioration et de changement, puisqu'on était un petit peu sur une terra incognita en termes de design de trajectoire, presque aux limites de la recherche.
Et on va évidemment rentrer un peu plus dans le détail sur cette élaboration, mais comment est-ce qu'on prépare déjà le plan de vol d'une mission telle que JUICE? Quelles sont les grandes étapes
Alors, tout commence en fait avec les besoins exprimés par les scientifiques. Vous parliez du podcast avec Olivier la semaine dernière, qui expliquait les enjeux scientifiques des missions vers les lunes glacées des planètes géantes. En fait, si on prend par exemple un objectif scientifique qui est l'habitabilité de ces lunes, qui sont donc reliées à l'existence et la caractérisation des océans qui sont sous les couches de glace, on imagine bien qu'on ne pourra pas envoyer un chercheur creuser et forer la glace de ces lunes. Donc la question qui se pose au début, c'est comment peut-on utiliser des instruments scientifiques et après comment peut-on faire un profil de trajectoire qui permette de répondre à ces objectifs scientifiques. C'est là toute la complexité du problème, c'est de traduire des objectifs scientifiques de haut niveau en quelque chose de concret.
Alors ce vol vers Jupiter, il est planifié pour durer 8 ans. Peut-être pourquoi 8 ans aussi? Il y a une raison à cela, j'imagine.
Tout à fait. Alors le vol en ligne droite, ça peut exister. C'est surtout dans les films de science-fiction. Mais ce qui existe de manière plus réaliste, c'est des transferts directs entre la Terre et Jupiter. Pour avoir un transfert direct entre la Terre et Jupiter, il faut partir de la Terre avec une vitesse qui est très élevée. Il y a des lanceurs qui peuvent faire ça. En ce moment, il y a le SLS qui est aux États-Unis et en cours de test et de validation, il y a le Starship. En Europe, on a un lanceur qui est dit lourd, Ariane 5 et bientôt Ariane 6, on espère. Ce lanceur lourd a une capacité élevée, mais qui est moindre que les deux que j'ai cités. Et par conséquent, le lanceur ne peut pas nous envoyer directement vers Jupiter. La seule solution, du coup, pour atteindre Jupiter avec la masse qui est celle de Juice, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le principe des frondes gravitationnelles, assistance gravitationnelle avec les planètes du système solaire. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça que ça dure 8 ans.
Oui, c'est d'ailleurs une des particularités de ce vol. Hein. C'est la première fois, je pense, qu'on va utiliser la Lune et la Terre, notamment comme assistance gravitationnelle.
Tout à fait. Les missions précédentes au niveau européen, au niveau de l'ESA, mais aussi au niveau utilisé par la NASA, ça a toujours été des assistances gravitationnelles de Vénus, de la Terre et de Mars pour atteindre les planètes extérieures ou des missions extérieures comme Rosetta. Maintenant, on a inventé en Europe, à l'ESA, on a inventé le concept de l'assistance gravitationnelle Terre-Lune. C'est-à-dire qu'on va arriver, ça va se passer en août, là dans quelques mois, on va viser la Lune, on va survoler la Lune et moins d'une journée plus tard, on va survoler la Terre. Et l'avantage de faire cette assistance gravitationnelle Terre-Lune à la place de la Terre uniquement, c'est que ça permet de gagner énormément de carburant ou vice-versa, d'augmenter la masse des instruments à bord.
Alors c'est donc 8 années de vol, on imagine évidemment rempli de challenges en termes de trajectoire. Quels sont les précédents sur lesquels vous avez pu vous appuyer pour réaliser vos calculs?
En termes de transfert interplanétaire, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui est connu, puisqu'on a parlé de cette assistance gravitationnelle Terre-Lune qui est quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais volé avant. Pour le reste, on s'est basé sur des outils que nous avions développés dans le cadre d'autres missions telles que Rosetta ou Solar Orbiter, qui est aussi qui sont deux missions avec des assistances gravitationnelles multiples, sachant que ça, c'est vraiment pour la partie transfert interplanétaire.
Alors Arnaud Boutonnet, je le rappelle, vous êtes expert en dynamique de vol à l'Agence spatiale européenne. Un mot, si vous le voulez bien, aussi sur les fenêtres de lancement. Les retards, ils arrivent évidemment pour ce genre de mission. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les conséquences alors que les lancements sont prévus à la minute, voire à la seconde près, hein?
Tout à fait. Le principe des transferts interplanétaires, sans aller sur quelque chose de très compliqué comme le transfert vers Jupiter, mais si on prend, on va dire, les transferts les plus simples, prenons entre la Terre et Mars, les trajectoires qui vont amener à avoir la masse disponible la plus élevée, qui est ce qu'on cherche en général vis-à-vis des instruments, elle va toujours avoir un petit peu la même forme. Ça va ressembler à une espèce de demi-ellipse. Donc il va falloir que la Terre soit d'un côté de cette demi-ellipse et Mars, à l'arrivée, soit de l'autre côté de cette demi-ellipse. Et donc là, intuitivement, on sent bien que cette configuration-là ne va se passer qu'à certaines dates très précises qu'on va appeler fenêtres de lancement. C'est pour ça que quand on prend un cas qui est encore plus compliqué où on veut aller vers Jupiter, c'est ce même phénomène qui est répété avec plusieurs arcs reliant les différentes planètes jusqu'à l'arrivée. Alors, je précise aussi que quand on fait ce genre d'analyse, si on prend le cas le meilleur, on va trouver une date très précise, mais d'un point de vue opérationnel, on ne peut jamais se baser sur ce cas-là, parce qu'imaginez, ça s'est produit pour Juice, par exemple, le premier jour de la fenêtre de tir, nous avons eu des orages qui sont passés au-dessus de Kourou. Moi, j'étais là-bas, donc je l'ai vécu en direct, et on a eu ce qu'on appelle un rouge météo, et le tir a été abandonné. Il faut donc avoir la possibilité de lancer le lendemain, voire le surlendemain, etc. Et la norme, c'est d'avoir ce qu'on appelle une fenêtre autour de la meilleure date de 3 semaines. Donc ça, c'est pour la durée de ces créneaux. Et par rapport à l'heure, on tire à la seconde de près. Là encore, intuitivement, ça se comprend assez facilement. Imaginons que pour partir, on reprend le cas vers Mars. Pour partir vers Mars, on va, admettons, tirer à une certaine heure qui nous fait partir vers l'extérieur. Si vous lancez 12 heures plus tard, au lieu de partir vers l'extérieur du système solaire, vous allez partir vers l'intérieur du système solaire. Donc, on comprend bien que pour partir vers une planète, il va falloir lancer à une heure très précise de la journée. Et c'est ce qui fait que c'est comme ça qu'on aboutit à ces créneaux, 3 semaines, et chaque jour, pendant ces 3 semaines, une certaine heure précise à la seconde près.
Alors concrètement, la mission Juice aura notamment 2 phases, hein, l'une où elle sera en orbite autour de Jupiter pendant 2 ans, et l'une où elle sera en orbite autour de Ganymède pendant 1 an, je pense. Ce sont justement ces objectifs scientifiques qui dictent ces phases.
Tout à fait. Alors, c'est plus de 2 ans, hein, la phase autour de Jupiter, c'est 3 ans, 3 ans et demi. Et après, effectivement, on se met en orbite autour de Ganymède. La durée de ces différentes phases, c'est vraiment effectivement lié aux objectifs scientifiques. Donc, dans le cadre de JUICE, par exemple, nous avons une phase où on veut analyser la magnétosphère de Jupiter et on va dire les hautes latitudes et les pôles de Jupiter. Donc c'est 2 choses à la fois. La manière de traduire cet objectif scientifique, ça veut dire qu'il faut que l'orbite de la sonde autour de Jupiter ne soit pas comme elle est la plupart du temps pendant la mission dans le plan de l'équateur de Jupiter, mais il faut qu'elle petit à petit on l'incline. Alors comment on incline une orbite? Soit avec des manœuvres énormes, mais on n'a absolument pas le carburant pour faire ça. Soit on fait la même chose qu'on a fait pendant la phase interplanétaire, c'est-à-dire qu'on utilise des assistances gravitationnelles, et on fait ça avec une des lunes de Jupiter qui s'appelle Callisto. Et donc on la rencontre régulièrement, un peu plus de 2 semaines, et petit à petit, à chaque survol, on va augmenter l'inclinaison. Et donc on comprend aisément que ça va prendre un certain temps pour augmenter l'inclinaison jusqu'à atteindre l'inclinaison maximale, et après ça va reprendre un certain temps pour redescendre. Et donc de ça, on voit bien que on aura besoin d'un certain nombre d'assistances gravitationnelles et d'un certain temps pour réaliser cette phase-là. Et c'est la même chose avec toutes les autres phases, avec tous les autres objectifs scientifiques de la mission que l'on a avant la partie où on va en orbite spécifiquement autour de la Lune Ganymède.
Alors en préparant cette émission, j'ai cru comprendre que la phase autour de Jupiter était justement la plus compliquée à calculer. Vous le mentionniez d'ailleurs un peu au début. Vous avez dit qu'il a fallu tout inventer justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Il a fallu tout inventer parce que quand on a une phase interplanétaire, on a un nombre limité d'assistances gravitationnelles. En général, c'est 3, 4, maximum 5. Qui fait que les outils que l'on peut utiliser appartiennent à une certaine classe qui, comme je disais, qu'on a réutilisé de missions antérieures comme Rosetta ou Solar Orbiter. Quand on arrive autour de Jupiter, on se retrouve avec des dizaines de survols et en plus avec énormément de contraintes scientifiques intermédiaires qui font qu'on doit l'espace de recherche et on ne peut pas dire infiniment plus grand, mais sans commune mesure, et ce qui fait qu'on ne peut absolument plus utiliser les outils standards. Et donc, ça nous a amené à développer des outils et des techniques qui sont complètement spécifiques et pour lesquelles on a fait de nombreuses publications dans des conférences et des journaux.
We'll be right back. Alors, nous sommes de retour avec Arnaud Boutonnet, expert en dynamique de vol à l'Agence spatiale européenne, qui travaille depuis 17 ans sur la fameuse mission JUICE de l'ESA à destination de Jupiter. Alors Arnaud Boutonnet, quelle est finalement la marge de manœuvre dont vous disposez pour corriger la trajectoire si nécessaire en cours des différentes phases de la mission ?
Alors, la réponse, elle est en plusieurs étapes. La première, c'est que ce qu'on appelle cette phase autour de Jupiter, avant d'aller en orbite autour de Ganymède, on appelle ça, c'est un mot anglais, mais qui est aussi un mot en français, le tour. Le tour des lunes, là, qui fait 30-35 survols, c'est quelque chose, on en a, depuis que je travaille sur la mission, on a dû en produire, je dirais, 10-12. Et même aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, c'était hier en l'occurrence, hier j'étais encore en train de travailler sur la production d'un nouveau tour pour Jupiter, puisqu'on continue à le faire évoluer et qu'on va continuer à le faire évoluer pendant quelques années, jusqu'à un peu avant l'arrivée à Jupiter. Une fois qu'on y sera, donc ça c'est vraiment des modifications majeures, je dirais, du tour. Mais ensuite, une fois qu'on a cette trajectoire de référence, effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on arrive à suivre exactement cette trajectoire de référence ? Et la réponse est évidemment non. Et pourquoi la réponse est non ? Parce qu'on a énormément d'erreurs qui vont affecter, avoir un effet sur notre trajectoire. Par exemple, les mesures. On va mesurer où est-ce qu'est la sonde avec ce qu'on appelle des mesures de distance radiale et des mesures de Doppler. Ces mesures qui sont faites avec les stations de sol sont entachées de bruit et d'erreurs. Donc ça, on va avoir des erreurs dans les mesures. Ensuite, par exemple, on va se rendre compte qu'on va pas savoir exactement où on est. Et en plus, comme on utilise la propulsion pour se guider, on doit réaliser régulièrement des manœuvres. Les manœuvres elles-mêmes sont aussi entachées d'erreurs. Quand vous allumez le moteur et quand vous l'éteignez, vous n'allez pas l'allumer exactement. Il y a toujours un petit delta par rapport à l'instant d'allumage et l'instant d'arrêt et la direction, par exemple. Ce qui fait que vous allez aussi dévier de votre trajectoire de référence. Donc vous ne savez pas exactement où vous êtes et vous avez des manœuvres en contrôle qui est entachées d'erreurs aussi. Et donc il y a un ensemble de techniques qu'on appelle navigation et guidage qu'on développe et qui font que régulièrement, on regarde où on est dans une espèce de tube autour de la trajectoire de référence, et régulièrement, on fait des petites manœuvres pour rester à l'intérieur de ce tube. C'est comme ça qu'on garantit qu'on arrive à rester près de la trajectoire de référence.
Alors, JUICE est donc un orbiteur. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire un mot, finalement, sur les instruments dont il va le disposer pour réaliser ses recherches, ses études ?
Alors, effectivement, comme vous le dites, ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les objectifs scientifiques. Si on reprend l'exemple de l'habitabilité des océans sous glaciaire, on va donc avoir des instruments qui vont servir à caractériser ces océans. Donc ça va être par exemple l'épaisseur de la couche de glace, ça va être par exemple l'analyse de la surface, s'il y a des remontées avec des crevasses, s'il y a des remontées, qu'on puisse analyser les éléments qui remontent. Donc là, par exemple, on se rend compte qu'on va avoir besoin d'un radar pour savoir exactement où on passe. On va par exemple avoir besoin d'un altimètre. Pour analyser la surface, on va avoir besoin de caméras et de spectromètres. Et si on prend par exemple autour de Ganymède, il y a un champ magnétique autour de Ganymède, c'est l'un des seuls corps du système solaire avec de lune avec un champ magnétique. D'ailleurs, c'est la seule, je pense. Et donc là, on va avoir ce qu'on a, des magnétomètres. Et on se retrouve à la fin sur JUICE avec un ensemble de 11 instruments qui vont permettre de répondre aux objectifs scientifiques de manière conjointe, effectivement, parce qu'une fois qu'on a les instruments, ça ne suffit pas, il faut avoir aussi la trajectoire qui va avec. Donc trajectoire plus instrument, l'objectif c'est que ça puisse permettre de répondre aux questions scientifiques, je veux dire, de haut niveau de la mission de JUICE, qui est, comme vous le rappelez, un orbiteur, parce on peut avoir d'autres types de missions à la place d'un orbiteur, évidemment.
Et peut-être un mot encore sur les instruments. Alors les alentours de Jupiter sont considérés comme hostile, hein, je pense, pour les instruments d'études. Il y a notamment ce qu'on appelle les ceintures de radiation qui posent justement des challenges pour les satellites orbitaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Effectivement, vous avez raison, le champ magnétique de Jupiter est extrêmement fort. Du coup, les particules chargées, des protons et des électrons se retrouvent piégés dans ce champ magnétique et avec des niveaux d'énergie très élevés puisque le champ est très fort. Ces radiations ionisées vont avoir tendance, comme on le voit autour de la Terre, mais de manière décuplée. Donc autour de la Terre, c'est les fameuses ceintures de Van Allen. Autour de Jupiter, on va avoir le même effet, mais beaucoup plus élevé. Et donc, on va avoir tendance, typiquement, à avoir une dégradation des panneaux solaires. On va avoir aussi un deuxième effet qui va être des problèmes de corruption de l'électronique, et voire même de perte de cartes électroniques dans leur ensemble, sachant qu'on a des équipements qui sont très sensibles, par exemple au niveau des instruments. Ce qui fait que au niveau de JUICE, on répond à cette problématique de deux manières. La première, en utilisant sur la sonde ce qu'on appelle comme des espèces de coffres-forts, c'est des coffres-forts très épais, je crois que c'est en aluminium, dans lequel on va mettre tout ce qui est électronique sensible. Donc par exemple, une batterie, c'est pas sensible, donc ça on va le mettre en dehors, mais les cartes électroniques des instruments, ça c'est très sensible, donc on va les mettre dans ces espèces de coffres-forts. Et la deuxième chose, c'est que comme l'intensité du champ magnétique augmente énormément quand on se rapproche, on a des contraintes très très strictes qui font que on essaie de passer le moins de temps possible à l'intérieur de ce champ. Par exemple, lorsqu'on réalise les survols d'Europe, on descend vraiment jusqu'à Europe pour faire les survols avec JUICE. Et dès qu'on a fini les survols, on ressort très vite, le plus vite possible, parce que pendant cette phase-là, on accumule énormément de ce qu'on appelle de doses de radiation.
Alors, vous l'avez dit, il existe différentes classes de missions. Alors, JUICE est un orbiteur, c'est d'ailleurs la première mission de classe L, je pense, lancée par l'ESA, et l'Agence spatiale européenne semble prévoir d'envoyer une sonde autour d'Encelade avec un atterrisseur. Cette fois-ci, vous êtes support analyste de la mission pour cette mission L4. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Effectivement, remontons avant JUICE, les premières missions vers les planètes extérieures, c'était des missions où on ne faisait que des survols des planètes. C'était les missions Voyager, typiquement, parce que c'est à cette époque-là, c'était le mieux qu'on pouvait faire, sachant que intuitivement, on comprend aisément que si on veut, par exemple, se mettre en orbite, on va avoir besoin de beaucoup de carburant pour se mettre en orbite. Donc, on va avoir une sonde qui est beaucoup plus lourde. Donc, on va avoir besoin d'un lanceur qui est beaucoup plus puissant. Et c'est la même logique qui fait que quand on passe après avec la mise en orbite, ça a été le cas historiquement de la mission Galileo vers Jupiter ou Cassini vers Saturne, on va déjà avoir besoin de lanceurs plus lourds et on va avoir des sondes plus lourdes. Et une fois qu'on est en orbite, vous allez avoir, si vous prenez par exemple le cas de la comparaison JUICE et Europa Clipper à la base voulait se mettre en orbite autour d'Europe comme nous on se met en orbite autour de Ganymède. Mais étant donné qu'ils ont parlé de la radiation tout à l'heure, étant donné qu'ils accumulaient énormément de radiation, ils ne pouvaient pas faire une sonde qui remplissait les objectifs scientifiques. Et c'est pour ça qu'ils ont remplacé leur orbiteur d'Europe par ce qu'on appelle un orbiteur de Jupiter qui fait des survols réguliers, une mission de survol, on appelle ça, des survols réguliers d'Europe. Dans le cadre de la mission L4 vers Saturne et Encelade, il y a un peu le même genre de... Alors, il n'y a pas les problèmes de radiation parce que le champ magnétique de Saturne est beaucoup plus faible, mais par contre se posent les problèmes de masse. C'est-à-dire que si on veut se mettre en orbite autour de Saturne et faire un tour qui nous amène jusqu'à Encelade, pour se mettre en orbite autour d'Encelade, ça va prendre énormément d'assistance gravitationnelle, de temps et de masse de carburant, beaucoup plus que si on avait par exemple une mission uniquement de survol d'Encelade. Et une fois qu'on se met en orbite autour d'Encelade, on peut aller encore un niveau d'après en imaginant avoir un atterrisseur avec la sonde. Et c'est ce qui veut dire qu'il faut prévoir encore de la masse supplémentaire avec du carburant supplémentaire pour avoir un atterrisseur qui se pose à la surface. Donc, on sent bien qu'intuitivement, il y a une hiérarchie dans le type de mission qu'on va avoir. Et plus on va vouloir se rapprocher de l'objectif, dans ce cas, c'est Encelade, plus il va falloir avoir un lanceur lourd, plus on va avoir une sonde qui est lourde, plus ça va prendre de temps et plus ça va être complexe. Mais effectivement, on a plusieurs options pour L4 et l'une d'entre elles, c'est d'avoir un atterrisseur pour Encelade. Une autre, par exemple, ça sera uniquement d'avoir une mission avec des survols.
Alors, on arrive malheureusement doucement au terme de cette émission, mais je le mentionnais en début d'émission, Arnaud Boutonnet, ça fait 17 ans que vous travaillez sur cette mission JUICE qui est prévue de s'arrêter en septembre 2035. Peut-être c'est ce qui vous intrigue, motive le plus dans cette mission JUICE.
Alors, il y a plusieurs objectifs dans JUICE. C'est ce qu'on appelle une mission de caractérisation, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir, on est dans une phase intermédiaire entre celle où on a découvert les océans sous glaciaires et celle où on va pouvoir aller explorer ces océans. Donc cette mission de caractérisation, c'est vraiment comprendre dans le détail comment sont faits ces océans, qu'est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir y trouver dedans et est-ce que les conditions d'habitabilité sont réunies. Moi, c'est ça qui me fait, c'est ces résultats-là scientifiques qui me tardent le plus de voir et qui seront la base, a priori, s'ils étaient positifs, de la mission suivante qui consisterait à peut-être un jour aller directement se promener dans les océans.
Arnaud Boutonnet, encore merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Alors je rappelle, vous êtes expert en dynamique de vol à l'Agence spatiale européenne et également support analyste de la mission L4 de l'ESA. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le lien du podcast radio.be ou radio.fr. Encore merci.